Europe 1.
17h, 18h.
Clap. Laurie Choleva.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Clap, votre émission cinéma chaque week-end sur Europe 1. Nous sommes ensemble pendant une heure pour parler de cinéma et pour décrypter l'actualité chargée du 7e art entre le palmarès des Oscars et le prochain film de Tarantino. On a une belle matière cette semaine encore. Didier Alouche, notre correspondant à Los Angeles, nous dévoilera de nouveaux scoops dans son JT d'Hollywood. Et puis cette semaine, nous aurons le plaisir de recevoir Jean Dujardin pour parler du film adapté de l'œuvre de Sylvain Tesson, Les Chemins Noirs. Mais aussi Lisa Azuelos et Alexandra Lamy pour évoquer un film coup de poing, La Chambre des Merveilles. Enfin, mes merveilles à moi sont là et elles s'appellent Sophie Rosemont et Mehdi Omaïs. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Laurie.
Bonjour merveille Laurie.
Alors, en dernière partie d'émission, on décryptera évidemment l'actualité des sorties salles, à savoir un coup de cœur, un coup de gueule, une déception, une bonne surprise.
On va être d'accord avec, on le dit ensemble.
On dit ensemble.
Toute la beauté et le sang versé.
C'est un documentaire.
Oui, ouais. De Laura Poitras.
Voilà, exactement. On vous en reparlera donc en dernière partie d'émission. Et on pense fort à Franck Vallière qui s'est blessé, mais qui va vite revenir dans l'émission. Donc voilà, on lui fait plein de coucou.
Bisous Franck.
Voilà pour le programme de Clap qui commence maintenant.
Europe 1, 17h, 18h, Clap. And the Oscar
goes to... Et l'Oscar est décerné à...
Michelle Yeoh.
Pour tous les petits garçons et les petites filles qui me ressemblent et qui regardent la télévision ce soir, ça, c'est un phare d'espoir qui ouvre la voie des possibilités. Cette statuette est la preuve que lorsque vous rêvez en grand, eh bien les rêves peuvent devenir réalité. Et mesdames, mesdemoiselles, ne permettez à personne de vous dire que vous êtes allé trop loin, que vous en demandez trop.
C'était lundi dernier le discours poignant de Michelle Yeoh qui remportait l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Everything Everywhere All at Once. Et c'est tout un symbole puisque ça fait d'elle la première femme asiatique et seulement la deuxième femme de couleur après Halle Berry en 2002 à remporter l'Oscar. Sophie,
c'était un très beau discours que celui de Michelle Yeoh. Vraiment, c'est
très bien préparé.
Ça m'a touché en plein cœur. Ils étaient effectivement préparés à gagner, mais est-ce qu'ils auraient dû gagner autant l'équipe de ce film ? Là-dessus, j'avoue que je suis un peu dubitative et même très déçue par cette cérémonie qui n'a quand même pas récompensé deux grands films, en l'occurrence Star et The Fabelmans.
Et on va y revenir justement. Mais c'est vrai que c'était un joli moment, hein, Mehdi. Mais, il
oui.
y a un mais.
Michelle Yeoh, je suis vraiment ravi qu'elle ait gagné, même si je lui préfère la performance tellurique de Cate Blanchett dans Tar. Mais voilà, pour sa carrière, pour sa grâce, pour ses rôles, je trouve que c'est beau, c'est fort, son discours était fort. Donc ça ne m'a pas dérangé, mais je rejoins.
Mais il y en a d'autres qui vous ont dérangé.
Voilà.
On y vient. Donc la 95e cérémonie des Oscars, c'est vrai que c'était riche en émotions cette année. Le discours de Brendan Fraser, Oscar du meilleur acteur pour The Whale, qui signait quand même son grand retour. Le sacre de Jamie Lee Curtis, hein, meilleure actrice dans un second rôle. On avait tous quand même la larme à l'œil. Et celui qui nous a le plus ému, je crois quand même que ça reste Keyu Khan, longtemps oublié après ses rôles cultes lorsqu'il était enfant dans les Goonies ou encore Indiana Jones. Il est revenu en tête d'affiche avec Everything Everywhere All at Once et il gagne l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Écoutez son émotion.
Souvent, on dit que ce genre d'histoire, elle n'existe qu'au cinéma. Et moi, j'ai du mal à croire que ça m'arrive à moi. C'est ça, le rêve américain. Ma mère a 84 ans. Et je sais qu'elle me regarde à la maison. Maman, je viens de gagner un Oscar.
Bon, bah ça.
Je vais pleurer là. Je vais pleurer.
Si tu veux, Laurie.
C'est insoutenable d'émotion.
C'est clair que c'est le moment d'Oscar. Oui. Voilà,
c'est aussi ce qu'on aime voir aux Oscars.
Exactement.
Quand même, hein.
C'est le moment phare de la soirée. C'est très difficile de ne pas être ému parce que tout est vrai. Son body language, son souffle, ses silences, tout était vrai et on peut forcément qu'être heureux pour lui.
Et puis on l'a vu, le regard de Steven Spielberg posé sur lui, plein de tendresse. Et ça ne fait que rajouter à l'intensité du moment.
Puisqu'il a démarré aux côtés de Steven Spielberg. D'ailleurs, il y a la photo qui circule un peu partout sur les réseaux sociaux. Je vous invite à la regarder.
Photo prise par Guillermo del Toro.
C'est très drôle.
C'est génial. Ouais.
Alors bon, effectivement, si on doit retenir un film qui a marqué cette cérémonie, vous l'aurez compris, c'est Everything Everywhere All at Once. Il a raflé 7 Oscars, dont ceux que l'on vient de citer et surtout meilleure réalisation et meilleur film, et c'est là peut-être qu'il y a débat quand même.
Ah oui, là il y a grande déception, c'est-à-dire ça aurait été très beau de récompenser Steven Spielberg pour The Fabelmans, qui est un grand
film sur le cinéma, sur
comment il est devenu réalisateur. Donc là, ils avaient quand même le choix, meilleur film, meilleure réalisation, comme ils le voulaient, mais il a été complètement et injustement snobé.
Moi, j'ai un souci avec Everything Everywhere All at Once. Je trouve que, alors, moi, je n'adhère pas au film, mais je salue l'audace, l'originalité, la créativité sur un budget pareil, proposer quelque chose d'aussi fou, c'est super. Qu'il soit sacré aux Oscars, c'est très bien, parce qu'il faut aussi faire la part belle à ceux qui sont un peu contre ce classicisme qu'on aime hollywoodien, avec les cinéastes dont tu parlais, Spielberg, Todd Field, etc. Mais sept Oscars, Laurie, pour un film comme ça. Moi, je vous dis, dans quelques années, je pense qu'il n'en restera pas grand-chose. Et je sais que là, je vais prendre une volée de bois vert une deuxième fois sur les réseaux sociaux si les gens m'entendent, mais il ne mérite pas cet Oscar. Mais il méritait clairement d'être mis en lumière.
Bah, bon, la part belle, comme tu disais, mais aussi la part des choses. Et je crois que ce jury n'a pas fait la part des choses. On peut récompenser un film comme celui-ci et en récompenser d'autres également. Là, c'est une espèce de sacre général, comme ça, comme s'il fallait une déferlante pour qu'on comprenne que le film vaille la peine d'être vu. Ça, je ne comprends pas. Et effectivement, oui, classicisme de Steven Spielberg, mais aussi audace de Damien Chazelle. Mmh. Et puis, aussi, audace de Todd Field, qui à la base fait du cinéma. Enfin, il est dans. C'est du film d'auteur, clairement.
Juste si possible, Laurie, deux dernières choses. C'est l'oubli stratosphérique de Babylone, qui est l'un des plus grands films de l'année.
Qui n'était pas nommé.
Voilà, pas nommé, même pas Margot Robbie, et même pas la musique. Et deuxième chose, moi, je te décerne pour le coup l'Oscar de la prononciation, parce que beaucoup de gens galèrent pour le titre, et tu l'as fait à merveille.
Pour une fois que je prononce bien un titre en anglais. Merci beaucoup, Mehdi. Bon, je vais vous remonter un peu le moral avec cette musique. Sophie pourrait presque nous refaire la scène
là,
du film.
Elle est montée sur la table. Elle est montée à la Uma Thurman, sans être Uma Thurman, hélas.
Ça donne envie de danser et c'est une valeur sûre. Et c'est bien sûr la musique culte de Pulp Fiction, le film mythique de Tarantino, Palme d'Or à Cannes à l'époque. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on a appris cette semaine que Quentin Tarantino allait réaliser un nouveau film, son 10e. Alors, chiffre 10, très important, parce que Tarantino a toujours dit qu'il ferait simple, uniquement 10 films dans sa carrière, pas un de plus. En fait, en vrai, ça pourrait être son 11e, mais il compte Kill Bill 1 et 2 pour un seul film. Alors, est-ce son dernier, vraiment? Sans doute.
Ouais, je sais pas.
Il terminerait avec le début, c'est-à-dire... C'est son modèle, Pauline Kael, qui est aussi un de mes modèles. Donc moi, j'avoue que je trépigne. Là, je compte les jours.
Oui, parce que alors, selon The Hollywood Reporter,
c'est l'histoire. En fait, ça va s'appeler apparemment The Movie Critic. Et c'est sur l'histoire de cette critique célèbre, hyper influente, qui allait souvent à contre-courant de la doxa et des choix courants. Elle détestait, par exemple, Meryl Streep ou Clint Eastwood. Elle n'aimait pas les films de Kubrick. Donc j'aurais aimé peut-être Tarantino sur... autre chose que le cinéma après Once Upon a Time in Hollywood, mais pourquoi pas faire d'une femme puissante, en plus critique. J'ai juste peur que ça soit un peu un film de l'entre-soi, on sait jamais, mais avec Tarantino, il peut peut-être l'ouvrir plus largement.
Oui, parce que c'est un récit passionnant. C'est un récit passionnant, c'est-à-dire cette fille qui a fait des brillantes études, mais qui se galérait financièrement et qui, à 30 ans, est devenue critique par pur hasard, parce qu'on l'a attendue à la table d'un resto donner son avis sur un film. Elle avait une plume acérée. D'ailleurs, je conseille vraiment à tous nos éditeurs et auditrices d'acheter les chroniques. Hein. Ces chroniques qui vont être en français chez Sonatine. Elle avait une plume incroyable et effectivement, elle n'y est pas allée avec le dos de la cuillère. Il suffit de lire sa chronique du film La Mélodie du Bonheur, vous verrez.
Et ça va donner forcément un personnage féminin principal, donc haut en couleur. Le tournage devrait débuter à l'automne 2023. Donc d'ici là, ça nous laisse le temps de découvrir plein d'autres films au cinéma. Et ça tombe bien, puisque si vous avez suivi Mehdi, Sophie, ce week-end, c'est
le printemps du cinéma.
Du cinéma.
Effectivement, donc cette opération qui fait son grand retour du dimanche 19 mars, donc demain jusqu'au mardi 21 mars inclus. 5€ la séance pour tous les âges, pour tous les films. C'est le rendez-vous incontournable pour découvrir en salle donc tous ces films dont on vous parle chaque semaine. Est-ce que vous avez un film que vous avez envie de rattraper là au cinéma?
On les voit quasiment tous. Ben, peut-être revoir, je sais pas, Babylone. Moi, j'ai envie de le revoir depuis que je l'ai vu la première fois.
Il est encore en salle?
Oui, il doit plus y avoir quelques énormément salles. Je vais farfouiller.
Allez, on part maintenant du côté de Los Angeles rejoindre Didier Alouche, qui était présent cette semaine sur le tapis rouge des Oscars et qui revient pour nous sur les chiffres dans son JT d'Hollywood.
Europe 1, clap, le JT d'Hollywood, Didier Alouche.
Salut Laurie, salut à tous. Ils étaient donc plus de 18 700 000 Américains devant leur télé dimanche soir pour regarder les Oscars, soit 12% de plus que l'an dernier, le meilleur score depuis 3 ans. Que signifient ces chiffres? Déjà que la cérémonie était réussie, élégante, drôle, parfois émouvante et surtout sans scandale. Et ça fait toujours du bien. Ça aide aussi de parler aux gens de films qu'ils connaissent, la popularité des films était bien plus forte que les années précédentes, même le grand vainqueur Everything Everywhere All at Once, cet Oscar rappelons-le, est sorti il y a un an et fait parler de lui depuis. Il s'est inscrit dans le décor, il est devenu partie prenante de la pop culture du moment. La raison de ces si bons chiffres tient peut-être d'ailleurs aussi à ces deux mots, pop culture. Dimanche dernier, c'est la culture populaire qui a été récompensée. On pense ce qu'on veut d'Everything Everywhere, mais son côté pop est indéniable. Tout comme la victoire de Kei-Wi Kwan, dont ses rôles d'enfant sont inscrits dans la mémoire populaire américaine, ou celle de Jamie Lee Curtis, reine des films de genre dans les années 80-90, et il n'y a rien de plus pop que le cinéma de genre. Jamie Lee le sait bien, elle a remercié les fans de genre qui la soutiennent depuis toujours. Le cinéma américain a toujours été sauvé par la pop culture, nous venons de le vivre. Il a fallu la suite de Top Gun ou d'Avatar, deux séquelles d'icônes de la pop culture américaine, pour remplir les salles après le Covid. La pop culture a toujours été au secours du cinéma en Amérique. Elle est peut-être tout simplement aussi en train de sauver les Oscars.
Et c'est vrai qu'on aime beaucoup la pop culture. On adore la pop culture, c'est d'ailleurs ce pourquoi on travaille en règle générale.
Tant qu'elle sert à un propos aussi, hein, parce que pop culture pour pop culture, c'est pas non plus la panacée.
Exactement, cher Mehdi Omaïs, ce n'est pas la panacée. En revanche, ce qui est la panacée, c'est de savoir que Jean Dujardin, dans un instant, nous parle de Sur les chemins noirs. Et ça, c'est une très bonne nouvelle.
Une vraie panacée.
Et une vraie panacée suivie d'Alexandra Lamy et Lisa Azuelos qui vont nous parler de la Chambre des Merveilles. Restez avec nous, à tout de suite sur Europe 1.
17h, 18h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes bien à l'écoute de Clap sur Europe 1 et cette semaine, c'est hors des studios que je suis allée à la rencontre de celui qui s'est glissé dans la peau d'un aventurier pour donner vie surtout à une histoire intime et spectaculaire, celle de Sylvain Tesson. C'est Jean Dujardin. Bonjour Jean.
Bonjour.
Merci d'être là. Alors, vous allez nous parler des Chemins Noirs. Hein, c'est l'adaptation du roman de Sylvain Tesson, un roman choc, poignant. Qu'est-ce qui a résonné en vous dans ce livre? Je sais que vous avez lu le livre avant qu'on vous propose le projet et vous avez déjà eu un coup de cœur.
Oui, oui, j'ai lu ce bouquin une après-midi où je devais un peu rester immobile. Donc, j'avais envie de prendre l'air, mais en restant fixe. J'étais rentré immédiatement dans son récit, parce que ce n'est pas un roman en fait. Quand on se dit « il a vécu tout ça », j'ai l'impression que l'identification est encore plus forte. On ressent la douleur morale, physique, psychique, la traversée, on la ressent énormément à la lecture. J'étais très étonné que Denis Imbert m'appelle en me disant « écoute, je viens de faire une adaptation avec Diastème ». J'étais curieux parce que je me suis dit…
Comment est-ce qu'on adapte ça?
Comment on adapte ça? Même Sylvain Tesson en convenait. Hein. C'est des exercices qui ne sont pas simples. Déjà, quand on voyait dans les forêts de Sibérie, un mec qui reste 6 mois dans une cabane près du Baïkal, vous imaginez. Là, ce sont, pareil, c'est un, je m'amuse à dire, un road movie fixe, mais c'est vrai qu'on est dans quelque chose de très mental, très méditatif. Donc, je l'ai ressenti avec un vrai désir, parce que j'en avais très envie depuis très longtemps de partir, de traverser dans les régions et pourquoi pas
de
en
marcher.
France. Bah oui, parce qu'en fait, je ne la connais pas, la France. En fait, on se rend compte qu'on connaît très peu d'endroits qu'on connaît.
C'est vrai.
Par exemple, le Cantal, tu décides d'y aller. Tu ne passes pas par le Cantal, tu ne passes pas par le Cotentin. Tu décides d'y aller.
C'est vrai.
Donc, c'est vrai que c'est 1300 km en diagonale. J'étais très, très curieux de ressentir quelque chose d'un peu nouveau, parce que pour le coup, on déshabille totalement son jeu et on est dans quelque chose de plus à l'os, plus
oui, méditatif. Parce que c'est ce que j'allais dire. Hein, le film, il est même à la limite du documentaire. C'est qu'on a vraiment l'impression de suivre ce chemin initiatique. Et je pense que même pour vous, ça a dû être une approche aussi différente de ce que vous avez l'habitude de faire.
Oui, dès le premier jour d'ailleurs. Dès que je suis dans le Mercantour, on est à 2000 mètres. Je suis à 500 mètres de la caméra. J'ai un toki dans le sac. On me dit, ça tourne, vas-y, marche. On ne comprend pas bien ce qu'on fait en fond, au fond. On se dit, effectivement, c'est... Sylvain Tesson disait, c'est un visage qui est dans un paysage. Mais c'était un peu ça, j'avais l'impression que j'étais fondu dans le paysage. Moi, j'entendais des pas, mes pas, j'entendais ma respiration, je sentais l'effort. J'étais entre ce que j'aime faire le plus au monde, c'est-à-dire marcher, courir à l'extérieur, être dehors et jouer. C'était le bon moment pour avoir les deux, en fait.
J'étais tombé du rebord de la nuit, m'étais écrasé sur la terre. Il avait suffi de 8 mètres pour me briser les côtes, les vertèbres. Le crâne. Corseté dans un lit, je m'étais dit à voix presque haute. Si je m'en sors, je traverse la France à pied.
Pierre, c'est de la folie, t'en as conscience.
Oui, mais si je pars pas, je pète les plombs. T'as plus de 1000 bornes. 1003.
Vous êtes toujours sur Europe 1, c'était un extrait du film Les Chemins Noirs, où vous serez à l'affiche Jean Dujardin mercredi prochain, le 22 mars. Alors, c'est un tournage qui vous a marqué ? Il y a un avant-après ?
Non, il n'y a jamais d'avant-après, moi. Je veux jamais...
Vous revenez à la normalité facilement ?
Oui, toujours. En fait, je me rends disponible pour un projet, je me fais croire, je peux aller très loin dans ce projet, mais je sais que c'est un peu schizophrène, c'est pas totalement moi. J'ai décidé que ça serait un autre, je peux lui donner toute permission. Mais ma vie, c'est ma vie. Je rentre dans ma vie.
Alors, c'était qui dans Les Chemins Noirs ? Parce que j'ai lu une interview où vous expliquez que ce n'est pas complètement Sylvain Tesson, hein, c'est non. Librement adapté.
Ouais. C'est Pierre, ouais. C'est un personnage. On prend l'essence du bouquin.
C'est un homme qui a bossé.
On prend le point de départ de son histoire, d'ailleurs. Hein, de façon, parce que ce n'est pas simple, d'ailleurs. Quand j'ai rencontré Sylvain, je lui ai dit, on n'est pas obligé de la faire, cette adaptation. Hein. On n'est pas obligé de se faire mal. Hein. Pour lui, c'est quelque chose, je suppose. Il y a clairement un avant et un après Chemin Noir. C'est une douleur inouïe pour lui et pour sa famille. Qu'est-ce que je pouvais prendre, moi, dans cette histoire ? Évidemment, je n'allais pas singer Sylvain Tesson, ni physiquement, ni... Donc, il fallait s'en dégager. Il fallait prendre un personnage. Voilà. Donc, on a pris les grandes lignes et ensuite, je faisais mon trajet. Parce que je pense que c'est ce qui est intéressant. C'est le projet universel, en fait. C'est que chacun peut y mettre son sac à dos. Sinon, ça aurait été un peu gênant.
Vous avez dit, hein, la marche, ça fait partie de votre vie. C'est ce que vous aimez.
Oui.
Vous marchez avec vos copains toujours, c'est ça ?
Oui, mes copains, mais quand je dis je marche...
C'est des copains de scout ?
Oui, c'est des copains d'enfance. Ouais.
Vous racontez quoi pendant la marche ?
On se parle de tout. On se parle de la vie, de nos vies, de mari, de père, de frère, de où on déconne, où on dit n'importe quoi. De toute façon, c'est difficile de parler à 5. Ce qui est pas mal, quand on part à 5-6, il y a des combinaisons. On peut faire 3 devant, 2 derrière, ou 3 derrière, 1 devant et 5 derrière. Enfin.
On tourne.
Et on tourne.
Comme à un dîner.
Exactement, comme à un dîner. Et ça permet de faire des espèces de psychanalyse un peu douces. C'est-à-dire que tu peux dire des choses à un copain juste à côté. Tu ne diras pas forcément à l'autre. Tu dis, lui, je pense qu'il est plus apte à l'entendre. Il pourra me donner des conseils. Donc, la marche te permet ça. Et tu n'as pas l'impression d'être non plus sur un sofa avec un mec qui t'écoute.
C'est ça.
Donc, c'est plus doux.
On peut s'évader
c'est
aussi.
C'est amical et ça peut faire son effet. Ouais.
Vous faites ça souvent ?
Je fais ça une fois par an. Mais là, on a envie de faire 2 fois par an. Là, on passe sur le... J'ai envie de retourner dans le Cantal en septembre.
Ah voilà, donc il y a quand même un avant-après Chemin Noir.
Un petit peu. Parce qu'il y a non, en fait, il y a un avant et un après Cantal.
Ah,
alors je veux pas rendre les autres régions jalouses parce que je connaissais pas le centre de la France. C'est quand même le centre de la France. C'est quand même un endroit. On met 6 heures pour y aller en train, on met 6 heures pour y aller en bagnole. Il y a 2 vols. On sait pas quoi. Tu dis c'est quoi cette espèce
ça
de région
mérite.
Oui, ça se mérite. Donc elle me rend curieux. Donc j'ai envie de passer de refuge en refuge encore quand il fera pas trop moche et éventuellement dormir à la belle. Ouais.
Vous avez, vous le dites, découvert, Jean Dujardin, des coins très reculés de France. Qu'est-ce qui vous a marqué ?
Les rapaces, il faut aller dans le Verdon. Quand on vous accroche sur une paroi de 300 mètres, là, vous êtes, grosso modo, vous avez une tour Eiffel en dessous de vous. vous voyez ces espèces de charognards qui passent au-dessus et en dessous, à 2 mètres de la paroi. C'est complètement fou. On a un sentiment de revenir totalement, d'être un vivant parmi les vivants, ça rend très humble. J'ai un souvenir du Cotentin, de la Hague, cette espèce de balcon sur la mer où vraiment, alors là, c'est pareil, très 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 sauvage, un vent qui était vraiment bienvenu parce que ces éléments-là aident aussi l'image, parfois racontent des choses. Les grosses pluies à Ségurée, tous ces petits villages à Ségurée, comme ça, ces espèces de villages médiévaux. Un peu tout en fait.
Des rencontres humaines aussi ?
Et puis surtout beaucoup de rencontres humaines. Ah oui, surtout des gens qui arrivaient dans les vignes, qui nous proposaient un bout de grenache, un bout de vin, des eaux de vie, un petit pâté. des gens très aimables et très heureux de vous voir arriver sur une place d'église ou une petite place de marché. Et des villes aussi très, très tranquilles, peut-être un peu trop tranquilles. Il y a des villes qui meurent et qui ne sont pas aidées et qui sont avec des façades murées. Des commerces à vendre, on se dit, ah ouais, là, c'est pas super bien desservi. Il faudrait peut-être penser aussi un peu à eux.
Jean Dujardin, vous avez ressenti quoi quand vous avez vu le film terminé ?
On a toujours un peu envie de s'excuser hein, quand on fait un film. Alors, vous imaginez un film où vous êtes pratiquement seul à traverser la France. Demandez qui ça va bien intéresser. Mais au fond, il y a un truc qui ne trompe pas, c'est l'honnêteté, la sincérité que vous avez eue avec ce projet. Moi, je sais pourquoi je l'ai fait. je ne cherche jamais ni à épater, ni à être à rentrer dans n'importe quel snobisme ou chapelle. Je le fais parce que j'ai une conviction et que si je peux embarquer 10 personnes, je peux en embarquer 100, 1000 et que ça peut peut-être marcher. J'en sais rien. C'est toujours un pari, un film. Rien n'est sûr, rien n'est fait. En revanche, le point de fuite, le point de départ, il doit être sincère et honnête. C'était le cas.
Et en tout cas, c'est un film qui fait du bien. Ça sort mercredi prochain au cinéma. Merci beaucoup, Jean Dujardin. Et c'est fait avec beaucoup de sincérité, comme à chaque fois dans tous vos projets. J'ai été ravie de vous recevoir sur Europe 1.
C'est gentil, merci.
Restez avec nous. Dans un instant, Alexandra Lamy et Lisa Azuelos viendront nous parler de La Chambre des Merveilles. À tout de suite sur Europe 1.
17h, 18h, Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Merci d'être avec nous sur Europe 1 pour la suite de Clap et une émission placée sous le signe de la célébration de la vie. Après avoir évoqué sur les chemins noirs aux côtés de Jean Dujardin et la reconstruction d'un homme suite à un terrible accident, on va maintenant parler, mais c'est bien parce qu'on aborde des sujets lourds cette semaine dans Clap, mais de façon très solaire. On va parler d'un film qui m'a bouleversée, c'est simple, j'ai terminé en larmes, des larmes d'émotions positives. Ça s'appelle La Chambre des Merveilles et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Lisa Azuelos, la réalisatrice, et
bonjour.
Alexandra Lamy.
Bonjour.
Moi-même, bonjour.
Oui, voilà, Alexandra Lamy, que je ne présente pas évidemment. Merci d'être là et avant
merci.
Toute chose, merci pour ce film. C'est vrai, c'est sincère, je n'ai pas été bouleversée comme ça au cinéma depuis longtemps. Le film m'a cueillie de plein de façons, à plein d'endroits. Ça se trouve des endroits qui n'étaient même pas prévus.
Qui n'existaient pas.
Il pique là où ça fait mal, mais il pique là où ça fait du bien aussi. Oui. C'est ça qui est fort. Lisa, on vous connaît pour tous vos films, comme Tu es belle, LOL, Dalida et d'autres. Mais là, pour la première fois, vous réalisez un film que vous n'avez pas écrit. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire, qui est l'adaptation d'un livre de Julien Sandrel?
Je crois que c'est vraiment justement la possibilité de faire un film très solaire qui parle du sens de la vie, de ce qu'on a vraiment envie de vivre quand on a la chance d'être vivant. Et je suis contente de ne pas l'avoir écrit parce que c'est mieux que ce que si j'avais écrit, je crois. En revanche, je suis très contente de l'avoir mis en scène et encore plus contente qu'Alexandra l'ait joué parce qu'on a réussi à toutes les deux à faire un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et toutes les couleurs surtout de l'arc-en-soleil.
Ah, c'est beau ça.
Oh, elle est hyper forte. Moi, j'en ai plus parlé après elle. J'en ai marre. Elle posait d'abord les questions et après elle fait la conclusion. Lisa. Je n'en peux plus.
Non, alors Alexandra, vous êtes dans ce film, cette mère courage, cette maman qui nous renverse le cœur, qui va tout faire pour aider son fils à sortir du coma en réalisant les 10 rêves que son fils a notés dans son journal intime. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette histoire, ce sujet qui est tellement lourd et en même temps traité d'une façon si jolie?
J'ai tout aimé dans cette histoire. J'aime beaucoup cette idée de faire une liste de rêves et de pouvoir les réaliser pour le faire rentrer dans la chambre de son fils, pour pouvoir peut-être le ramener à la vie. Je trouve que c'est, l'idée déjà est magnifique. J'avais très envie évidemment de travailler avec Lisa et je savais que ce film qui était déjà un peu lourd, parce qu'il y a quand même tout de suite un fond dramatique,
oui,
je savais qu'on allait y mettre de la lumière, surtout avec Lisa qui allait apporter cette lumière-là, mais je savais qu'on allait faire justement attention à ne pas rajouter de pathos, que ça soit pas... Et là, on a vraiment l'agréable surprise de voir, quand on fait des tournées province, d'entendre la salle rire, être ému, sortir de là et vous dire « ça m'a donné une pêche incroyable, merci ». Enfin, ça fait du bien parce qu'il y a des films qu'on a envie de pleurer, mais c'est des belles larmes, c'est celles qui nous font du bien.
Il y a quoi dans cette liste ?
Taguer mon loup sur la caserne militaire.
Allez maintenant !
S'excuser auprès d'Amara.
Bonjour Amara. Tu sais, Louis s'excuse.
Faire dédicacer mon skate par KGI à Tokyo.
Allô ?
Vous n'êtes pas en Asie par hasard ?
Non, pas du tout, là, je suis au boulot.
Extrait de La Chambre des Merveilles sur Europe 1, qui est actuellement au cinéma, un film bouleversant dont on parle cette semaine en compagnie de Lisa Azuelos, la réalisatrice, Alexandra Lamy. Un film qui renverse aussi parce qu'effectivement c'est le combat d'une mère pour que son fils se réveille du coma, mais c'est carrément une renaissance et c'est apprendre à un moment donné de sa vie que finalement on peut ne pas avoir peur aussi, parce que quand on devient parent, on est souvent envahi par la peur. Oui, notre personnage, Alexandra,
complètement, on est confronté à la peur et c'est ce qu'elle essaye de... Elle va aller plus loin que ça et en fait, et je trouve qu'il y a un truc qui est très beau, c'est sans spoiler, hein, mais ce qui est intéressant surtout dans ce film là, c'est pas finalement la finalité, c'est tout ce qui est à l'intérieur et c'est exactement ce qu'on ressent parce que on a eu plein de retours de maman, de papa beaucoup aussi, et même de personnes qui n'ont pas d'enfants et qui ont dit moi je me suis retrouvée aussi là-dedans, et en fait c'est tout le chemin qui est à l'intérieur qui touche tout le monde en fait finalement.
Lisa Azuelos, ce qui m'a frappée, c'est tout au long du film, évidemment, on se demande, on veut que ce petit se réveille, mais finalement, cette mère, elle a vécu tellement de choses au cours de ce film. Ce chemin est tellement fort que c'est comme si on avait quelque part fait notre deuil avec elle de ce petit garçon. Évidemment, c'est grave s'il ne se réveille pas. Mais je ne sais pas si est-ce que vous voyez ce que je veux dire.
C'est vrai que ce que vous dites, en fait, ça revient à dire peu importe la destination, ce qui compte, c'est le chemin. Et ça, c'est vraiment la grosse leçon de vie. La destination, on la connaît, c'est la mort. Donc, évidemment, on peut s'accrocher à la peur de la mort si on a envie. C'est une réalité. Mais on peut aussi s'accrocher tous les jours au fait qu'on est vivant. Et le fait d'être vivant rebat les cartes tous les matins dans un choix qui peut être divin, qui peut être merveilleux. Et c'est un peu ça l'idée du film. C'est, voilà, nous, on va vous battre 10 cartes de rêve qui sont 10 merveilles à vivre. Mais vous, c'est quoi votre merveille à vous, à vivre avec vos enfants, avec vous-même?
Enfin,
c'est...
Alors, vous avez fait votre liste,
ouais.
Toutes les deux?
Ouais. Alors, malheureusement, je suis arrivée au bout, moi. Alors, j'aurais...
Ah, vous avez réalisé j'aurais... tout. Ça y est, vous avez réalisé
j'ai
tout
que deux
rêves
par exaucer. Okay. Le premier, c'est kitesurf.
Ça peut se...
C'est difficile.
Ça peut se faire.
C'est difficile quand on a mon niveau physique de plein de trucs. Le kitesurf, c'est difficile. Et le deuxième, c'est Brad Pitt. Voilà. À part
bon,
ça.
Bon, alors Brad Pitt, il fallait venir.
Bon, c'est que je suis pas. Je te l'aurais présenté.
Je suis 3 millionième.
Mince. Mais sinon, il y avait quoi dans les rêves déjà réalisés?
Il y avait sauter en parachute, nager avec les baleines, prendre des champignons.
Tourner avec Alexandra Lamy.
Tourner avec Alexandra
Lamy. Ça, c'est dans le film aussi.
Il y avait
hein.
surtout faire des films, devenir réalisatrice, faire un film aux États-Unis. Il y avait
des voyages,
faire des enfants. Ouais. C'était mon premier rêve, c'était faire des enfants quand même. Je peux rendre à César quand même que les enfants, c'était le premier rêve. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, parfois, je prends l'accent comme ça, mais il vient naturellement. C'est pas pour me moquer. Voilà. Mais tous mes rêves, je les ai exaucés. C'est pas parce que je suis guidée par mes rêves, en fait.
Et vous, Alexandra?
Mais moi aussi, il y en a quelques-uns que j'ai réalisés, comme devenir une actrice, comme être une actrice, comme un jour pouvoir réaliser, je l'ai fait aussi. Mm-hmm. Et maintenant, si j'avais d'autres rêves, moi, c'est beaucoup les voyages. J'adorerais...
Des endroits à découvrir.
Ouais, continuer à voyager, je trouve que c'est tellement... Ça nourrit tellement, c'est tellement riche, les voyages. Voilà, et puis repartir aussi avec toi en aventure, ça, j'aimerais bien.
On voyage beaucoup toutes les deux.
À repartir en aventure, vous voulez dire au
mais
cinéma
on pourrait
ou
même,
non
je suis sûre, trouver...
On ferait les deux.
Je sais qu'on réfléchit à un truc comme ça. Parce qu'en plus, ce qui est fou, c'est quand même ce projet, finalement, il est venu à nous, comme si on avait déclenché quelque chose. C'est-à-dire que toutes les deux, on se connaît dans le voyage. Et tu m'as appris aussi cette aventure intérieure, quand même, parce que tu m'as amené beaucoup là-dedans, ce qu'on retrouve dans le film. Mmh. Et ce scénario arrive au moment où on avait très envie de travailler ensemble. C'est quand même dingue.
Alexandra Lamy, Lisa Azuelos, dans cette liste de rêves donc, de ce jeune garçon dans le film, d'ailleurs le comédien s'appelle Hugo Kestel, il est formidable. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Quel est le rêve qui vous plaît le plus?
Ben moi, ça a été clairement de nager avec les baleines. Ouais. Quoique les champis, c'était bien aussi. Moi, maintenant, le prochain, c'est être sous champi avec les baleines.
Alors là,
ça peut valoir son petit pesant de cacahuète.
Pour monter à la surface. Et vous, Alexandra?
Moi,
j'ai bien aimé hein, quand elle part.
Le Japon extraordinaire. Japon, en plus, moi, c'était un pays... Vraiment, j'avais très envie d'aller là-bas. Voilà, dans une liste de rêves comme ça, j'adorerais même y retourner parce qu'on est quand même parti.
On va y retourner. Je vais écrire un film qui se passe au Japon.
Parce qu'on a fait 5 jours de tournage et puis on est parti 2-3 jours ensemble et c'était merveilleux. Avec encore cette histoire d'aventure intérieure que tu m'as fait vivre qui était merveilleux. Ça a été... Moi, il y a un truc que j'ai adoré, c'est effectivement, alors je le répète souvent, mais ce moment que tu as amené de cette respiration avec cette fille au Portugal qui rapprend à cette femme à respirer. Et ça, ce moment-là, je trouve que c'est tellement important.
Oui, parce que votre personnage doit nager avec les baleines, mais elle n'arrive pas, elle a peur, elle respire plus.
Et cette respiration, ça lui apprend à affronter la peur qu'elle va utiliser finalement un peu tout le long du film. J'ai adoré ce moment-là et j'ai adoré aussi quand même ce petit moment, ce petit face-à-face avec ce loup quand même qui est quand même extraordinaire, qui est merveilleux. Ce face-à-face, là, quand même, je l'ai caressé, tout ça, c'était un animal complètement dingue. C'est mythique, il y a quelque chose de mystique, il y a quelque chose de... Ça, c'était une espèce de d'animal magique comme ça qui est arrivé sur le tournage où d'un coup, plus personne ne parle. Enfin, c'était quand même dingue.
Parce qu'il faut dire quand même que votre fils dans le film est fan d'un dessinateur de manga japonais.
Ouais,
et effectivement, le dessin de référence
c'est un loup.
Et récurrent, c'est ce loup. Et elle doit partir au Japon pour faire dédicacer le skateboard de son fils. Lisa Azuelos, vous l'avez trouvé comment ce comédien?
Un casting en fait. Hein, et c'est vrai que j'en ai vu pas mal. Il y en a plein qui jouaient bien, mais je me disais il faut qu'il soit émouvant même quand il se tait, parce qu'il a quand même 15 jours où il ne va pas dire grand-chose. Mais il amène son émotion d'enfant. Et bizarrement, il n'y en avait pas tant que ça qui était si émouvant que ça en faisant rien. Il était dans son personnage, même dans le coma. Et ça, pour un enfant de 12 ans, je lui tire mon chapeau parce que c'est un grand acteur, ce Hugo Castel. J'espère qu'il va faire une grande carrière.
Il y a cette scène très belle, c'est le démarrage de tout dans le film, hein, où vous avez ouvert le journal intime, Alexandra Lamy, de votre fils, et vous lui parlez de l'un de ses premiers vœux, c'était s'excuser auprès d'une camarade de classe. Oui. Et il y a cette larme qui coule, et elle interprète la larme, elle se dit, il est là.
Mais enfin, elle s'attache d'un coup à un signe. Et ça, c'est tellement important, parce que sinon, ça serait impensable. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui vous rattache, c'est ce qu'elle dit,
ça
d'ailleurs.
Ça lui permet aussi de surmonter l'insurmontable, hein, quelque
enfin,
part.
Elle prend ce signe, elle se dit, avec ça, maintenant je vais faire quelque chose. C'est la seule chose qui lui reste quelque part.
C'est une femme qui va s'accrocher non pas au diagnostic médical mais à ce qu'elle ressent, et elle va aller au bout de ça.
Voilà, ouais, c'est pour ça que je ne veux plus parler.
Bon, alors parlez-nous quand même, Alexandra Lamy, de votre rencontre avec votre maman de cinéma.
Moi je vais être Lisa plus tard.
Enfin, moi je veux être toi, alors comme ça vis ma vie.
Oui,
bon,
c'est
vous
ça,
l'avez compris, hein, elle s'aime beaucoup.
Muriel Robin,
C'est notre dernière ensemble, c'est
ouais,
pour ça.
C'est vrai,
et c'est, bah chez
oui,
moi,
ouais,
c'est
aujourd'hui, chez vous, donc
très
ça y est,
contente.
C'est fini.
Ça va vous porter chance.
Oui. Oui. Non, Muriel, super,
Muriel,
quelle idée géniale.
Génial.
Ah ouais,
et
moi
voilà,
j'étais tellement contente
aussi dans tout
oui,
ça.
Oui, puis je trouve qu'elle amène un truc particulier, c'est une mère comme on aime aussi. Il y a des choses qui nous font rire dans tout ce qu'elle amène. Franchement, quelle idée super. Moi, j'avais très envie de travailler avec elle, mais génial.
Moi, j'adore que dans tout ce drame où vraiment on se dit mais comment c'est possible, comment de surmonter un drame pareil, elle vous dit quand même à un moment donné qu'elle doit aller faire ses mèches.
Ah, mais voilà,
c'est notre phrase préférée. Vous faites partie des gens qui ont trouvé la phrase qui a motivé pourquoi on a dit oui à ce film. Voilà, elle dit écoute, toi, tu vas y arriver. Elle est tout en... Mais moi, il faut que j'aille faire mes mèches. C'est-à-dire que tout à coup, c'est une femme qui sait très bien qu'il y a des priorités dans un temps court et il y a des priorités dans un temps long. Et dans le temps court, les mèches, ça ne va pas attendre.
Voilà,
il faut s'occuper des racines.
Et moi, je trouve ça super.
Et ça, c'est important.
Ça s'appelle La Chambre des Merveilles. C'est en ce moment au cinéma. Voilà, c'est un sujet, je crois, le plus grave qui soit, la perte éventuelle d'un enfant. Mais en même temps, traité avec votre univers, Lisa Azuelos, votre grâce, avec de la fantaisie. C'est juste merveilleux, c'est bouleversant. Et vraiment, qui donne envie d'aller serrer... vos enfants, si vous en avez, mais vos proches, tout simplement.
Ou d'aller en faire.
En tout cas, de profiter de l'instant présent.
Exactement.
D'ouvrir les yeux sur les richesses qui nous entourent. Merci pour ce film. Merci à tous.
Merci à vous. C'est une super promo. Et je sens que vous avez aimé. Ça fait plaisir.
Ah, c'est vraiment sincère. Restez avec nous dans un instant. C'est le journal La Dessortie avec Sophie Rosemont et Médiomaïs. À tout de suite sur Europe 1.
17h, 18h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Nous sommes de retour dans Clap, votre rendez-vous cinéma sur Europe 1. Merci d'être à notre écoute et bienvenue si vous nous rejoignez. Pour ne rien rater des nouveautés cinéma ce week-end, voici notre journal des sorties. Alors, on va vous parler d'une vocation masculine dans un milieu très féminin, mais aussi d'un film entre danse et résilience. Au programme également le biopic d'une célèbre écrivaine, mais aussi un très beau documentaire primé à Venise. Pour vous parler de tous ces merveilleux films, Médiomaïs et Sophie Rosemont sont toujours à mes côtés. Ça va toujours ?
Au top.
Super. On va commencer avec un point sur le box-office, une idée du leader cette semaine, un indice, ça cogne fort.
Creed 2 !
Creed
3, pardon.
Et oui, toujours leader pour la deuxième semaine consécutive, Creed 3 avec 503 000 spectateurs. Même si on notera que le film a forcément perdu 52% de ses entrées en deuxième semaine, puisqu'il y a eu énormément d'incidents autour de la sortie du film, de nombreuses bagarres qui ont éclaté et de nombreux cinémas qui ont arrêté de diffuser Creed.
C'est dingo.
Mais le film cumule quand même 1 609 000 entrées. À la deuxième place, une saga qui ravit à chaque fois les plus téméraires des spectateurs. Trépigne encore, Mehdi à la réponse,
ouais,
c'est...
J'ai fait le signe en fait, du poignardage en fait. C'est Scream 6.
Il est toujours très calé sur le box-office.
Mais
Scream
j'adore ça.
6 qui a terrifié 464 000 personnes. Et juste derrière, en troisième position, le nouveau film de François Ozon qui était très attendu.
Mon crime.
Ouais, exactement.
Ah, il y a un lien entre Scream, mon crime, tout, c'est cohérent tout ça.
Et les
thématiques.
Tout se rejoint.
très violent. Hein.
Le film a attiré en première semaine 427 000 spectateurs et file tout droit au minimum vers le million d'entrées.
Et puis c'est l'un des plus gros succès de Ozon depuis un moment, hein, depuis Potiche, je crois, le démarrage.
C'est vrai. Alors on va commencer notre tour d'horizon des sorties salles. Il y a quelques instants, Alexandra Lamy et Lisa Azuelos étaient dans ce studio pour nous parler de La Chambre des Merveilles. Très très joli film, très émouvant, dans lequel Alexandra Lamy réalise les rêves de son petit garçon dans le coma pour tenter de lui redonner goût à la vie et qu'il sorte de ce coma. C'est très sensible, on écoute tout de suite vos réactions.
Je suis encore dans l'émotion pour l'instant.
Il y a beaucoup de tendresse, c'est une bonne surprise. Je pensais que c'était beaucoup plus triste, mais non, c'est formidable.
Je ressors un petit peu sur ma faim, mais c'est bien joué quand même.
Ah, moi j'ai bien aimé, hein, franchement, pour moi ça a été magique et j'espère que ce film aura un grand succès.
Et nous aussi. Autre film, Sage Homme, comédie de Jennifer De Volder. L'histoire de Léo qui a raté le concours de médecine, qui se rabat sur l'école de sage-femme à contre-cœur. Il n'assume pas, il cache même la vérité à ses proches. Mais lorsqu'il va faire la rencontre de Nathalie, une sage-femme jouée par Karine Viard, ça va totalement changer son regard sur ce métier très féminin.
Sage-femme, toi ?
J'ai dit à tout le monde que j'avais eu médecine, donc tu fermes ta gueule, d'accord ?
Ils vont t'envoyer au bled, gros.
Non, mais je peux mettre ça, donnez-moi la bleue.
Premier outil de la sage-femme, c'est d'avoir de bonnes pompes. Tous les jours, on court un vrai marathon.
Je suis grosse.
Non, vous n'êtes pas grosse, vous êtes enceinte.
Mehdi.
Bah, c'est très joli cette arrivée de ce personnage sur la pointe des pieds. Voilà, il faut se mettre en rose, il est encore engoncé dans plein de clichés sur les femmes. Et là, sage homme, mais il est en fait sage femme. Il va rentrer dans un univers, dans un milieu très féminin. Et cette découverte est très jolie, très humaine, très touchante. Je trouve que le cinéma allume pour la première fois aussi fort un projecteur sur un métier qui n'est pas forcément valorisé.
C'est vrai.
Parfois un peu trop didactique à mon goût, un peu trop explicatif, mais le duo fonctionne très bien avec Karine Viard et Melville Boomer, qui est vraiment une révélation. Ça manque aussi un peu d'aspérité ici et là, mais en tout cas, c'est une jolie découverte et un beau coup de projecteur allumé encore une fois.
On passe un bon moment, Sophie.
C'est vrai que la réalisation est assez académique, mais Melville Boomer, mais quelle révélation! Donc, on l'avait déjà adoré dans la série Le Monde de Demain où il jouait Joey Starr, donc là, deux salles, deux ambiances. Et là, il est vraiment extrêmement juste, il tient extrêmement bien la route face à la toujours très pertinente Karine Viard. Et effectivement, comme le disait Mehdi, mettre en avant ces métiers et aussi la vie assez hallucinante, vraiment toujours sous tension des hôpitaux publics, où c'est pas forcément évident d'exercer ce métier qui est un des plus beaux du monde, l'un des plus complexes, aider à donner la vie.
On écoute tout de suite vos réactions.
Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça sort un peu de l'ordinaire et ça place l'homme là où il n'est pas d'habitude. Donc c'est bien.
C'est un film qui m'a permis de connaître un sujet que je ne connaissais pas du tout. En plus d'être sympa et un peu rigolo, il est instructif.
J'ai trouvé le film formidable. C'est émouvant, c'est prenant. Et puis, on sait tout sur les accouchements comme ça.
On continue avec le nouveau film de Mounia Medour qui avait réalisé Papichas, qui avait révélé d'ailleurs Lina Koudri, film pour lequel elle avait reçu le César du meilleur espoir. Aujourd'hui, elle se retrouve dans le rôle d'une danseuse qui apprend à se reconstruire après une agression très violente qui lui a fait perdre la parole. Entre danse et résilience, c'est un très joli portrait de femme.
Vous avez fait un grave accident, Houria.
Il est muette.
Pourquoi vous avez relâché Ali ?
Madame, la justice, elle a fait son travail.
C'est un criminel impuni et vous l'avez relâché. Je vais trouver un avocat.
C'est pas la fin du voyage. C'est une nouvelle vie qui commence.
Puis toujours l'occasion pour cette réalisatrice de dresser un portrait de l'Algérie d'aujourd'hui aussi. Mehdi.
C'est à la fois les qualités et les défauts du film. C'est-à-dire que moi, j'aime le côté on va sonder les blessures à la fois de ce personnage qui est blessé et qui est empêché dans sa carrière de danseuse.
Blessé dans son corps et dans son âme.
Dans son corps, dans sa chair, et cette histoire de l'Algérie aussi. Donc cette double fracture. Moi, ce qui me gêne, c'est que c'est un peu un décalque de ce qu'elle avait déjà fait dans Papicha, cette sororité, même si j'aime cette thématique. Encore une fois, très, très démonstratif, même si les scènes de danse sont jolies. Je trouve que ça manque quand même de subtilité, de psychologie. Je suis resté sur ma faim, mais voilà, la dernière scène de danse est quand même jolie. J'aime beaucoup la danse.
Chorégraphiée par Ajiba, ouais, qui avait fait Danser avec les Stars.
Exactement. Et puis surtout, Lina Koudri,
elle a appris la langue des signes, elle s'est remise dans la danse classique, elle est sublime. Et Rachida Brakni aussi, les actrices sont vraiment très très bonnes. On continue avec un autre portrait de femme, Émilie, le film de Frances O'Connor, biopic sur la célèbre écrivaine, Émilie Brontë, interprétée par Emma McKee, qu'on a découvert dans la série Sex Education ou encore dans Eiffel aux côtés de Romain Duris. Émilie, c'est le portrait moderne d'une jeune femme brillante et provocatrice qui défie son époque jusqu'à écrire son chef-d'œuvre qu'on connaît tous, Les Hauts de Hurlevent. Sophie, vous avez aimé ?
J'ai beaucoup aimé, même si, là, une fois encore, une réalisation assez académique de Frances O'Connor. Mais on parlait de pop culture tout à l'heure, Les Hauts de Hurlevent, c'est quand même un objet culte partout dans le monde. Et donc là, Emma Mackey est formidable dans le rôle d'Emily Brontë, mais là où la réalisatrice est assez forte, c'est qu'elle réussit vraiment à traduire la fusion qu'il y avait entre ces trois sœurs. Ces trois sœurs extrêmement douées, toutes ont écrit. Une seule a réussi à connaître la gloire de son vivant, c'est Charlotte. Émilie est morte trop tôt, on le voit dans le film. Après, il y a évidemment pas mal d'infidélité à la réalité. Typiquement, lorsqu'on voit le livre publié, il y a écrit son nom, sauf qu'à l'époque, il faut le savoir, qu'Émilie Brontë n'a pas publié sous son vrai nom, mais sous le nom masculin d'Élise Bell. Mmh. Car évidemment, à l'époque, c'était très difficile d'être une femme écrivaine. Donc oui, un film à voir, et puis qui apprendra aussi sur à beaucoup de gens ce qu'était vraiment ce phénomène littéraire que sont encore d'ailleurs les Brontë.
Et on va vous parler rapidement d'un très joli documentaire, mais c'est votre coup de cœur. Ça s'appelle « Toute la beauté et le sang versé, Lion d'or à la dernière Mostra de Venise », nommé aux Oscars cette année. On suit la vie de la photographe américaine Nan Goldin et notamment son combat contre le scandale des opioïdes. C'est engagé, c'est passionnant. Qui commence, Mehdi ?
C'est génial, c'est le film de la semaine, il faut courir le voir. Ce n'est pas... Enfin, si vous ne la connaissez pas, ce n'est pas grave. Vous allez avoir envie de mieux la connaître.
Justement.
Après le film, bien que le film soit un portrait d'elle et aussi de l'Amérique, parce qu'on va voir comment sa vie, ses traumatismes, notamment le suicide de sa sœur, son activisme, son soutien à la communauté LGBT, comment toutes ces causes, toutes ces choses qui ont gravité autour de sa vie vont servir sa cause militante. Et en l'occurrence, là, s'attaquer à la famille Sackler qui a massacré des Américains avec l'Oxycontin qui a
des centaines de milliers. Une des premières causes de mortalité aux États-Unis.
C'est complètement terrible. Et en fait, c'est un film qui relie l'intime, la politique, l'art dans un maelstrom tellement bien raconté. J'adore, il faut le voir. Et regardez aussi la mini-série sur Disney+,
Dopesick.
Voilà.
Sophie.
Alors moi, évidemment, j'étais déjà conquise, j'adore Nan Goldin et je conseille vraiment à tout le monde de se replonger dans son œuvre photographique, notamment The Ballad of Sexual Dependency, où bien avant tout le monde, elle a fait un autoportrait d'elle, battue par le compagnon de son époque. Donc effectivement, Nan Goldin, toute la beauté, le sang versé, ça pourrait s'appliquer à toute son œuvre, extrêmement avant-gardiste, provocatrice. C'était la reine aussi dans The Grand New Yorker à une époque, mais là, c'est encore autre chose. Ça sert un propos qui est très fort et qui est finalement assez récemment exposé. Il y a aussi ce livre, paru il y a quelques mois, dont elle a signé la préface, L'Empire de la douleur, qui montre à quel point cette famille a mis en place ces médicaments qui ont tué des milliers et des millions de personnes. Donc c'est effectivement l'art, l'intime, le politique, tout ceci a toujours été lié chez Nan Goldin, et c'est aussi la veine du grand cinéma et des grands documentaires de cinéma.
Et bravo Laura Poitras, on n'a pas dit son nom, qui est la réalisatrice et qui avait fait Citizen 4 également.
Et qui fait un excellent travail, vraiment, avec Nan Goldin.
Merci à tous les deux, c'est déjà la fin de ce clap aujourd'hui. Je vous rappelle que j'ai eu la chance de recevoir non pas un, mais trois invités, Jean Dujardin pour Sur les chemins noirs au cinéma la semaine prochaine, mais aussi Lisa Azuelos et Alexandra Lamy pour La Chambre des Merveilles, actuellement en salle. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Pierre de Villeneuve pour Europe 1 Soir, et je vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour un nouveau clap. C'est le printemps du cinéma, profitez-en, allez au cinéma, et très bon week-end à vous à l'écoute d'Europe 1.